Bonjour et bienvenue dans Nobody Cares, l'émission culturelle des gens qui prennent très au sérieux des sujets dont tout le monde se fout et qui renaît de ses cendres. Pour cette année, vous parlez du NIF 2016, le NIF qui est donc dans sa 16e édition. On accueille Max de clap.ch.
Bonjour à tous.
Pour vous parler donc de cette sélection de cette année. On va faire ça comme on l'a fait chaque année, par ordre du jour, on va dire. En fonction de quel film on a vu, dans quel ordre. On va commencer donc par Bad Cat, qui est un film que Max va vous présenter. Oui, c'est Max qui va vous faire tous les pitchs de films, puisque je suis absolument nulle pour ça.
D'accord, alors du coup, Bad Cat, c'est un film turc, réalisé par Ayze Ünal et Mehmet Kurtulus, j'espère avoir bien prononcé. C'est donc un film d'animation où le protagoniste est un chat qui ressemble à Garfield, mais imaginez-le en version moins paresseuse et beaucoup plus débauchée. Lui, il s'intéresse uniquement à la bouffe, à l'alcool et au sexe, ce qui va lui causer pas mal de problèmes pendant l'heure et demie que dure le film. Moi, j'ai beaucoup aimé, mais je comprends pourquoi Aïcha aurait par exemple pas aimé le film, parce que bien que ce soit splendidement animé, c'est un film qu'on apprécie si on est réceptif à ce genre d'humour-là.
Voilà, tout à fait. C'est un genre d'humour que j'ai trouvé assez gras, et pas gras de manière intelligente. On peut faire de l'humour gras et intelligent, mais pour le coup, j'ai trouvé que c'était vraiment de l'humour ras des pâquerettes. Mais il faut reconnaître que, et je le reconnais volontiers, l'animation est absolument fantastique. L'animation notamment de l'eau dans ce film est assez incroyable. J'étais très impressionnée de ce côté-là par tous les aspects techniques du film. Si vous avez rien contre l'humour un peu gras, peut-être que vous pouvez donner une chance à ce film.
Oui, donc il repasse samedi, le dernier jour du festival, à 15h15, au Théâtre du Passage. Donc si vous avez envie de voir un film d'animation assez vulgaire, mais très drôle en même temps, avec un chat qui parle comme ça tout le temps, c'est pour vous.
C'est exactement ça. Désolé pour la saturation. le second film qu'on a vu, c'était The Mermaid. Qui est un film asiatique, Max.
Oui, c'est donc le nouveau film de Steven Chow, le réalisateur de Shaolin Soccer et Kung Fu Hustle. Et là, c'est un film qui a vraiment cartonné en Chine. Si vous regardez maintenant sur Box Office Mojo la liste des 10 films les plus vus au monde cette année, The Mermaid est, sauf erreur, à la 6e place, juste derrière Deadpool. Donc, pour vous faire comprendre à quel point les gens ont aimé ce film. Et donc, The Mermaid, ça parle de quoi? En fait, c'est une satire sur l'environnement. Il y a des gens qui veulent exploiter une certaine zone et détruire la vie aquatique. Et là, du coup, il y a des sirènes qui sont pas tout à fait d'accord. C'est drôle, il y a de l'action, il y a du commentaire sociopolitique. Ça devient peut-être un peu trop à certains endroits, mais ça marche très bien, on passe un très bon moment, et en plus ça dure qu'une heure et demie, donc ils exagèrent jamais au niveau de la durée.
C'est vrai que c'est pas un film qui m'a paru long, c'est même un film qui m'a paru touchant par certains aspects. Encore une fois, c'était pas mon genre d'humour. Je vais être la grosse râleuse parce que sur ces trois premiers jours du NIF, j'ai pas forcément ri devant beaucoup de films, mais pour le coup, c'est un film que j'ai apprécié, The Mermaid, et qui est léger et facile à voir.
Oui, c'est un petit peu moins fou que le film précédent de Steven Chow, mais si vous aimez ce réalisateur, ça vaut la peine.
Je saurais pas dire parce que je ne connais pas assez Steven Chow, mais on en vient à la première séance de minuit à laquelle on a eu la chance d'assister, qui était Scare Campaign.
Oui, donc Scare Campaign, c'est un film australien réalisé par deux frères qui s'appellent, sauf erreur, Cameron et Cody Cairns, je crois. Oui, tout à fait. Non, Colin Cairns et Cameron Cairns, désolé. Donc c'est un slasher satirique qui peut ressembler à certains égards à une version australienne de Cabin in the Woods, mais sans le côté méta-horreur avec les monstres et tout ça. En fait, le pitch, c'est que c'est une émission de caméra cachée qui s'appelle Scare Campaign, donc ils font peur aux gens avec la caméra cachée.
Mais ces caméras cachées de type très cruel qu'on a pu voir fleurir fleurir sur Internet.
Exactement. Et ce qui se passe, c'est que la fin de la saison télévisée s'approche. Ils sont en train de préparer le dernier épisode. Et du coup, leur productrice leur dit... En fait, je pense pas que je vais renouveler la série pour une nouvelle saison parce que maintenant les gens préfèrent regarder les snuff movies sur internet. Du coup, le réalisateur s'est dit, ok, il faut aller un peu plus loin. Du coup, il choisit quelqu'un comme victime qui n'est pas peut-être le bon choix. On va pas vous en dire plus, mais donc là, c'est très satirique, il y a du gore, c'est hyper drôle à plusieurs endroits. La fin est un petit peu faible, mais là aussi, on parle d'un film qui dure 76 minutes, donc on n'a pas vraiment le temps de se plaindre parce qu'on passe très rapidement d'une scène énorme à l'autre.
Je suis pas tout à fait d'accord pour le fait que la fin ait été décevante. Moi, j'ai...
Non, pas décevante, mais disons un petit peu plus faible par rapport au reste du film.
Ah ça, oui, effectivement. Mais le film, pour le coup, le film est très efficace dans son côté effrayant. Il est aussi très efficace dans son côté amusant. C'était vraiment un des films que je retiens pour le moment. D'ailleurs, je note que la plupart des films que j'ai le plus aimé jusqu'à présent, c'était des séances de minuit. Mais oui, Scare Campaign, c'est vraiment une grosse recommandation pour le NIF cette année.
Oui, bah d'ailleurs, je crois que la deuxième séance, c'est justement ce soir. Donc, minuit 30, si vous avez envie de le voir, ce sera au...
Le podcast sera pas encore sorti, donc malheureusement...
Ah, bah voilà, on oublie.
Vous avez loupé Scare Campaign, bravo à vous. Achetez le DVD. On passe déjà au deuxième jour du festival, avec comme premier film The Devil's Candy. Qu'on a pu voir aux arcades. Dans lequel est-ce que tu l'as vu aussi, The Devil's Candy?
Oui, moi je l'ai vu avant le festival en fait. Je l'ai vu au festival de Turin en novembre dernier. Donc c'est le nouveau film de Sean Byrne, le réalisateur australien que vous connaissez peut-être grâce à The Loved Ones, qui devrait être toujours disponible sur Netflix, sauf erreur si vous l'avez pas encore vu. Donc The Devil's Candy, c'est son premier film américain avec notamment Ethan Embry et Pri Taylor Vince dans des rôles importants. C'est donc l'histoire
et
d'un...
Et Shirley Appleby aussi.
Oui, Shirley Appleby aussi. C'est donc l'histoire d'un musicien qui s'installe avec sa famille dans une maison...
Non, c'est pas un musicien, c'est un peintre.
Ah oui, un peintre, mais qui aime la musique métal.
C'est un peintre métalleux.
Oui, tout à fait. Donc, il s'installe dans cette maison où des meurtres ont eu lieu plusieurs années auparavant. Et tout d'un coup, il retrouve l'inspiration pour peindre, sauf qu'apparemment, c'est une voix démoniaque qui l'inspire en disant des trucs genre...
Tout à fait, voilà. En gros, un golem un peu flippant. Voilà, non mais... Qu'est-ce que tu en avais pensé de The Devil's Candy? Moi, je sais que c'est un des films que j'ai bien aimé.
Oui, moi aussi, c'est moins efficace que The Loved Ones. C'est un peu... Toujours le problème des réalisateurs internationaux qui arrivent aux States, parce qu'aux States, il y a quand même certaines règles, certaines conventions, même une certaine censure à laquelle il faut adhérer pour réaliser des films de genre là-bas. Donc, c'est un petit peu moins efficace, un peu moins cruel, mais ça marche vraiment bien.
Voilà, c'est beaucoup moins... Je m'attendais à quelque chose de plus violent, plus gore, on va dire, après avoir vu The Loved Ones, et beaucoup aimé The Loved Ones. Mais pour le coup... Ça reste un film très efficace, très... Bon, peut-être un petit peu propre, très coché les cases, on va dire.
Ouais, bah justement, mais... c'est un film américain.
Voilà, c'est très formaté, mais ça reste un formatage qui passe bien et qui se savoure assez. Pas mon gros coup de cœur du festival, mais un film sympa.
Ouais.
Le film suivant qu'on avait vu, c'était Los Parecidos, qui est une sorte d'épisode de Twilight, d'hommage à The Twilight Zone.
Oui, tout à fait. Le réalisateur lui-même a dit, en présentant le film, c'est un hommage à la science-fiction des années 60. Lui, il parlait plutôt de cinéma dans sa présentation, mais on pense plutôt effectivement à un épisode de Twilight Zone, ce qui est d'ailleurs le grand défaut du film.
Ouais,
il dure qu'une heure et demie, mais on sent qu'il aurait pu durer la moitié. Ça, c'est vraiment trop long pour arriver à la révélation, et puis après ça enchaîne avec
le problème c'est que même après la révélation
ça enchaîne avec des révélations supplémentaires qui servent pas à grand chose, donc on se dit ça aurait mieux marché comme court métrage ou limite justement s'ils avaient fait une série télé.
C'est tout à fait ça. Moi j'étais bien dans l'histoire, disons les 20-30 premières minutes, et ça s'essouffle très très vite malheureusement. Et ça se répète ad vitam, du coup on s'ennuie et malheureusement le film qui aurait pu être une réussite pêche par sa longueur.
Oui, mais faut aussi dire, c'est pas le plus mauvais film latino-américain qu'on a vu au NIF.
Oh non, absolument pas. C'est malheureusement pas le plus mauvais film latino-américain qu'on a vu au NIF. D'ailleurs, c'est même pas vraiment un mauvais film, je dirais.
Non, c'est juste, c'est disons, un peu trop ambitieux.
Voilà, trop ambitieux peut-être. On passe à Desierto, qui est mon gros coup de cœur jusqu'à présent du festival. Qui a été réalisé par le fils d'Alfonso Cuarón.
Oui, donc c'est le premier long métrage réalisé par Jonas Cuarón, qui a déjà fait des courts métrages, notamment si vous avez vu Gravity. Dans les bonus du DVD du Blu-ray, il y a ce court métrage où on voit la scène, la conversation téléphonique entre Sandra Bullock et un Esquimau du point de vue de l'Esquimau. Donc ça, c'est Jonas Cuarón qui l'a réalisé. Et Desierto, c'est donc un film mexicain qui parle justement d'un groupe d'immigrés qui arrivent clandestinement aux États-Unis, mais il y a un Américain un peu raciste qui
aime raciste,
un petit peu texan, on va dire, qui aime tirer sur les immigrés qui arrivent illégalement. Et il passe ses journées avec son chien à chasser des lapins et puis chasser des Mexicains aussi.
Voilà, à la frontière. Et c'est un film que j'ai trouvé particulièrement beau, que ce soit visuellement ou dans son propos.
Oui.
C'était très très bien joué également. Il y a Jeffrey Dean Morgan et
Gael Garcia Bernal.
Voilà, qui sont tous les deux parfaits pour leur rôle. Jeffrey Dean Morgan surtout très impressionnant. Et non, pour moi, c'est une réussite totale, tant du point de vue visuel que du propos, que du moment auquel il arrive, dans sa temporalité, tout est parfait dans ce film.
Oui, alors juste pour rappel, Jeffrey Dean Morgan, c'est l'acteur qui joue Negan dans The Walking Dead à partir de la fin de la saison 6. Du coup, si vous avez aimé sa prestation dans le rôle de Negan, vous ne devez pas louper Desierto, parce que là aussi, c'est un salaud avec un S majuscule.
Ok, ça me donnerait presque envie de regarder The Walking Dead. Ensuite, on a vu Yoga Hosers, sauf erreur, c'était ça?
Oui, Yoga Hosers.
Qu'on avait vu. Voilà, donc Yoga Hosers, qui est la dernière production de Kevin Smith, qui fait partie de sa trilogie du Grand Nord. Après Tusk, c'est le deuxième opus, qui nous parle de... Comment dire? Qui nous parle d'une invasion de saucisses nazies.
Exactement, c'est des saucisses avec des uniformes qui passent presque tout leur temps à dire « Wunderbar !» C'est d'ailleurs Kevin Smith qui joue toutes les saucisses. Et les personnages principaux se sont fait des rôles secondaires de Tusk. Donc vous vous souvenez peut-être, il y avait ce magasin avec deux gamines qui bossaient à la caisse. C'était donc Harley Quinn Smith, la fille du réalisateur, ainsi que Lily Rose Depp, la fille de Johnny Depp, qui revient lui aussi dans le rôle qu'il jouait dans Tusk, donc le flic québécois Guy Lapointe. On le reconnaît pas du tout, mais c'est ça un peu aussi qui fait rire. Il y a d'ailleurs aussi Vanessa Paradis, et puis plein de trucs à la Kevin Smith. Il y a trois références différentes à trois Batman différents, c'est assez drôle comme ça. Il y a la musique de Shining, et on promet déjà dans le générique de fin qu'il y aura un troisième volet qui s'appelle bien évidemment Moose Jaws.
Voilà, oui. Non, c'était pour moi, enfin, je m'attendais à quelque chose de mauvais. Je vais être honnête, je m'attendais à quelque chose de mauvais.
En lisant qu'il y avait des saucisses nazies.
Je sais pas, c'est juste que tout le truc, je m'attendais à quelque chose qui aurait été d'un grand intérêt pour le réalisateur, puisque ça lui aura permis de collaborer avec sa fille sur un film. Mais je m'attendais à quelque chose qui qualitativement serait pas au rendez-vous. Mais au final, j'ai trouvé le film absolument charmant. C'est très con d'utiliser cet adjectif, mais j'ai trouvé charmant. amusant aussi à plusieurs reprises. Ça reste, c'est du Kevin Smith et ça reste très très sympathique. Moi, oui. C'est un film que je recommanderais.
Ouais, mais disons quand même, si vous êtes pas forcément fan de Kevin Smith, voilà, ou si le pitch des ados contre des saucisses nazies vous intéresse pas, bah c'est pas le film pour vous.
Voilà, c'est ça. Si vous aimez pas Kevin Smith, ne vous donnez même pas la peine de le regarder. Mais si vous aimez Kevin Smith, donnez-lui quand même.
Ou
une chance.
Si vous détestez Johnny Depp, peut-être que là.
Ah, j'aime pas beaucoup Johnny Depp et son unique rôle depuis 16 ans.
Alors là, du coup, peut-être le voir dans le rôle d'un con québécois, ce serait...
Voilà, tout à fait. Ensuite, on peut passer au troisième jour déjà. Qu'on avait commencé, personnellement de mon côté, je sais pas si toi tu avais vu un film avant, mais j'avais commencé avec The Alchemist Cookbook.
Oui, on était tous les deux dans la salle au même moment. On a tous les deux assisté à la fuite des spectateurs.
Voilà, c'était la meilleure partie de The Alchemist Cookbook, c'était de voir une trentaine de spectateurs quitter la salle.
Et ça, bon, c'était une trentaine juste en haut,
juste en bas,
on sait pas.
Juste en haut. Et une très très bonne réplique de quelqu'un dans le public qui a crié non mais ça devient bien après,
et le mec a répondu bah j'espère mais j'ai pas la patience.
Voilà, et c'est vrai que c'était un peu la même impression que j'avais, à savoir que c'est un film à côté duquel je suis totalement passée. Je dirais pas que c'est un mauvais film. Mais c'est un film à côté duquel je suis totalement passée, qui tant par son rythme, par sa bande son, rien ne m'a accroché dans le film.
Oui, en fait, le pitch, c'est en fait une histoire de possession démoniaque, mais fait avec un budget quasiment inexistant. Donc, si vous vous attendez à un truc genre L'Exorciste, n'y allez pas. Moi, j'ai par contre beaucoup aimé le film parce que je connais le réalisateur, Joel Potricus. Il a participé deux fois à la compétition Cinéaste du Présent au Festival de Locarno avec ses deux premiers longs métrages. C'est donc un peu dans le même style, c'est vraiment cinéma indépendant à 100% qui ne respecte pas forcément le code de son genre. Et je trouve la plus grande erreur par rapport à ce film, c'est de l'avoir mis dans la section Ultra Movies, parce que du coup, on s'attend à quelque chose que ce film n'est pas du tout.
Voilà, effectivement, je crois qu'on a tous pensé ça, c'est que le film n'avait pas du tout sa place dans la catégorie Ultra Movies. C'était plutôt un film of the third kind,
oui.
Pour reprendre les classifications,
oui,
du NIF.
Oui, coup, third kind, ou à la limite compétition, quoi.
Voilà, c'était soit un des deux. Je le vois pas spécialement en compétition internationale, parce que c'est pas vraiment un film. J'ai pas trouvé de qualité incroyable, mais.
Ouais, mais en même temps, quand on sélectionne un film, c'est pas forcément une question de qualité, ça dépend aussi des noms. Donc là, du coup, comme j'ai dit, Joel Potricus, c'est un des grands noms du cinéma indépendant américain des dernières années, donc.
C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais malheureusement, pour moi, c'était un raté. Je suis aussi passée à côté du film qu'on a vu après ça, qui était L'Occhiavamo Yegrobot.
Ouais, plus ou moins, c'est ça.
Vas-y, dis-le correctement.
L'Occhiavamo Yegrobot, c'est donc le film italien en compétition. C'est le premier long métrage du cinéaste et musicien Gabriele Mainetti, qui a aussi écrit la musique du film. C'est donc l'histoire d'un voleur à Rome, joué par Claudio Santamaria, qui... il se trouve dans le fleuve à un moment, puis il y a des substances toxiques qui le transforment en super-héros, ou plutôt super méchant à la base, super criminel. Puis il devient très rapidement un héros parce qu'il y a un méchant encore plus méchant que lui, de Gypsy, joué par Luca Marinelli. Et c'est un film très mélancolique, très drôle, c'est un peu de la satire du genre de super-héros. Il y a notamment, si vous avez vu la bande-annonce, la réplique, mais... Comment t'as eu tes pouvoirs? T'as été mordu par une araignée? Par une chauve-souris? T'es tombé d'une autre planète? Donc, du coup, c'est très drôle, il y a de la réflexion sur le genre, mais c'est aussi un film de super-héros très réussi à mon sens, mais je peux comprendre que ça puisse passer à côté parce que c'est quand même un film très italien, il y a des références culturelles qu'on comprend pas forcément si on connaît pas l'Italie, et même au niveau des dialogues, il y a certaines nuances que les sous-titres n'arriveront jamais à transmettre.
Voilà, c'est ça, et puis c'est vrai que pour un film de super-héros, c'est... ça reste trop, trop film un peu autour du crime. Et c'est pas tout à fait le genre de film auquel je suis très responsive. Malheureusement.
Pour vous donner une idée au niveau des références culturelles, il suffit de savoir que Claudio Santamaria, qui joue donc le super-héros, c'était aussi la voix de Christian Bale dans la version italienne des Batman de Christopher Nolan, donc ils l'ont choisi exprès pour ça aussi. Et à un moment, il y a aussi un journal télévisé, on entend la voix de Adriano Giannini, qui était la voix italienne du Joker dans The Dark Knight. Donc il y a toute une réflexion aussi au niveau des acteurs et des voix pour les super-héros.
Voilà, oui, tout ça, c'est des références que moi, personnellement, j'avais pas, et du coup, effectivement, j'ai pas accroché au film. Après, c'était pas un mauvais film du tout.
La plupart des spectateurs ont l'air d'avoir apprécié.
Voilà, la plupart des gens ont l'air d'avoir beaucoup apprécié.
Si vous aimez les super-héros, bah, vous pouvez y jeter un œil.
Voilà, tout à fait. Si vous aimez les super-héros et que vous êtes curieux, jetez un œil à ce film parce que vous pourriez très bien avoir une très bonne surprise, contrairement à moi. Ensuite, on passe au pire film qu'on a vu cette année.
Oui, absolument, pour l'instant en tout cas.
Qui est Downhill, qui s'appelle donc Downhill.
Ouais, c'est donc le titre et aussi la qualité du film.
Voilà, c'est parce que ça commence plutôt pas mal. C'est un film qui nous parle de deux BMXers de l'extrême, un gars et sa copine, qui doivent aller au Chili pour une compétition ou quelque chose du genre. Et qui se retrouve kidnappé, enfin, qui se retrouve à tenter de fuir dans les montagnes, une sorte de gang. On ne sait pas trop qui sont, qui pratiquent le satanisme, mais on ne sait pas trop.
C'est un peu un mélange de Cabin Fever, Alien. The Green Inferno même à des moments.
Voilà, c'est The Green Inferno.
C'est un grand mélange de trucs et ça marche. Pas du tout, au début on s'est dit ok, ça va peut-être donner quelque chose, mais après un quart d'heure je me demandais ok, ça va aller où, puis ça va dans tous les sens.
Le montage est atrocement laid.
Il n'y a
aucune logique dans l'écriture, visuellement c'est laid. Ouais.
Ça fait pas peur du tout.
C'est objectifiant pour les femmes, il y a de tous les personnages, enfin on voit apparaître une dizaine de personnages féminins. Sur les 10 personnages féminins, il y en a 8 qu'on voit nus ou bien sexualisés, presque nus. Donc, soit du full frontal, soit du 80% à poil. Et les deux personnages restants, c'est ceux qu'on voit pendant 30 secondes à la fin.
Ouais, exactement.
Voilà. Donc, c'était vraiment Downhill, ma pire expérience du festival.
Puis au niveau de la logique, il faut aussi dire, pendant la présentation du film, car il est dans la section Eldorado, donc c'est censé représenter le meilleur de la production de genre en Amérique latine des dernières années. Bon, là, c'est un film en première mondiale, donc on n'avait pas forcément des échos avant d'avoir vu. Et là, bon, la traduction n'était pas toujours excellente. J'ai réussi à capter quelques défauts au niveau de la traduction, mais là, je me demande qu'est-ce qu'ils voulaient dire, le producteur et les réalisateurs, quand ils ont dit au début, il y a eu tout un débat autour du fait que le cinéaste latino-américain ne devrait pas faire de film en anglais, alors que Downhill est un film qui est 50, 60, même 70% en anglais.
Voilà, oui, il y a peut-être 3 répliques qui se...
Les personnages principaux sont américains.
Voilà, les personnages principaux sont américains. Il y a 3 répliques qui se courent après en espagnol.
Le méchant principal est anglais.
Voilà, on ne sait pas pourquoi.
Ouais, c'est vrai.
Il n'y a aucune explication pour quoi que ce soit dans ce film. Donc vraiment, restez éloigné de Downhill si vous tenez à votre vie.
Bon, en même temps, dans le cadre du NIF, il y avait une seule projection, donc si vous tombez sur ce film à la télé, sur Netflix, DVD, quoi que ce soit, évitez.
Voilà, tout à fait. Après, on a vu un film qui a été une très bonne surprise, qui est Trash Fire, enfin, pour moi.
Ouais.
Enfin, même pas une surprise, parce que c'est Trash Fire qui nous vient de Richard Bates Jr., à qui on doit aussi Excision.
Exactement.
Qu'on avait pu voir au NIF il y a 3 ans déjà, je crois, sauf erreur.
Ouais, 3-4 ans.
3-4 ans, quelque chose comme ça, peut-être même 5. C'est un film dans lequel... deux personnages pas très aimables, un type et sa copine, se retrouve enceinte, donc un couple attend un bébé.
Exactement.
Et la fille du couple dit à son copain que si elle ne, si son copain refuse de lui faire découvrir, de lui faire rencontrer sa belle famille, elle va avorter. Donc on va donc à la rencontre de cette de la famille de du mec qui est constituée de sa grand-mère. Et de sa sœur qui est brûlée, à, grande brûlée à 80% sur 80% de son corps.
Oui, donc elle a été défigurée dans l'incendie qui a tué les parents du mec plusieurs années auparavant. Donc là, elle est restée chez la grand-mère qui est hyper religieuse et insupportable dès sa première apparition. Même avant, il nous dit, il nous prévient. Oh mais je te préviens, elle est insupportable. Puis mais non, arrête. Puis dès qu'on la voit, on se dit. Ouais, okay. Effectivement,
elle est encore pire, elle est encore pire que tout ce à quoi on pourrait s'attendre. Mais c'est un film bourré d'humour.
Oui.
C'est la salle était hilar à plusieurs reprises. C'est vraiment un de mes coups de cœur pour le moment. Ça faisait flipper, ça faisait rire, c'est le genre de truc.
Oui, c'est très fidèle à la poétique de Richard Bates Jr. Donc, si vous avez aimé Excision, c'est le même principe, un mélange de humour, tragédie, horreur, et qui va jusqu'au bout avec son propos. Il se retient pas du tout.
Voilà, et c'est satirique, enfin, c'est très satirique, très acerbe, et on sait que c'est le genre de choses qui nous plaît.
Image finale glaçante.
Voilà, c'est un bon film, c'est un très bon film.
Oui, oui.
Le film suivant qu'on a pu voir, c'était durant lequel tu t'es endormi d'ailleurs, quelques instants.
Oui, quelques instants. Bon, faut dire, c'était mon sixième film de la journée, il a commencé à minuit 45.
Voilà, donc, c'est ça, c'était Carnage Park, dans lequel on retrouve...
Donc c'est un film de Mickey Keating qui, comme nous l'a dit Julien Rusconi de l'équipe du festival en présentant le film, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans du cinéma ultra violent. Et là donc c'est une histoire vraie apparemment, en tout cas c'est ce qu'ils disent au début. On n'est pas resté jusqu'à la fin du générique pour vérifier si c'était effectivement une histoire vraie ou pas, mais c'est donc l'histoire de deux mecs qui foirent un braquage, puis ils ont une femme en otage, et ils se retrouvent dans cet endroit qui s'appelle Carnage Park, qui est donc habité par un vétéran du Vietnam qui s'amuse à tirer sur les gens.
Ah, c'est un vétéran du Vietnam?
Oui, en tout cas, c'est le synopsis que j'ai trouvé en ligne, c'est un vétéran du Vietnam.
D'accord, ok.
Et c'est d'ailleurs aussi, sauf erreur, le frère du shérif, ce qui explique pourquoi il arrive à opérer sans être dérangé par les autorités.
Le frère du shérif, le shérif qui est joué par quelqu'un qu'on ne va pas vous spoiler.
Ouais. En revanche, on peut dire le méchant, c'est parce que c'est le deuxième nom qui apparaît dans le générique, c'est Pat Healy. Donc, si vous avez vu Compliance ou Cheap Tricks ou The Innkeepers, c'est donc un acteur qu'on connaît assez bien dans le genre. Et il joue donc ce tueur psychopathe avec un masque à gaz et un rire assez spécial qu'on entend plusieurs reprises qui fait un peu genre.
Et il le joue, il joue le psychopathe à merveille.
Oui.
Il est glaçant et le film repose sur sa performance ainsi que sur celle de Ashley Bell, c'était ça?
Oui, Ashley Bell qui est donc la scream queen et la final girl de ce film. Ça se déroule en 78, donc c'est forcément aussi un hommage aux productions de genre de cette époque-là.
Ça
on pense notamment à Alien.
On pense aussi à Massacre à la tronçonneuse.
Oui, Massacre à la tronçonneuse, Halloween, Alien, voilà. Tous ces films où il y a justement la fille seule contre cette force du mal qui, en l'occurrence, n'est pas un monstre, mais quand même.
Voilà, oui, c'est tout à fait. Les pires monstres sont humains.
Ouais.
Et c'est...
Surtout s'ils sont joués par Pat Healy.
Voilà, tout à fait. Et pour moi, ça m'a totalement conquise. Surtout vu à minuit 45 après une journée de film pas forcément top.
Ouais, exactement.
C'était exactement ce qu'il fallait pour enlever le
mauvais goût de Downhill.
Voilà, le mauvais goût de Downhill. C'était efficace, c'était flippant. Je pense que c'est le genre de film que je reverrai probablement parce que même sans être un chef-d'œuvre, même sans être le meilleur film qu'on ait vu, c'est un film qui était bien. Même très bien par moment,
Idéalement, on pourrait en faire une double projection avec Deserto, en fait.
C'est exactement ce à quoi j'ai pensé. On a eu beaucoup de, de chasse à l'homme.
Ouais. Un peu toujours dans la même région, d'ailleurs.
Toujours dans la même région, voilà. À croire qu'il faut éviter la Californie.
Ouais. Non, c'est plutôt le Texas.
Le Carnage Park se passait en Californie.
Ah oui, effectivement, oui. Donc, mais quand même, éviter.
Non, et c'est pas au Texas, c'est au Mexique. C'est au Nouveau-Mexique.
Oui, tout à fait. Oui. Mais donc, à penser qu'il faut éviter les régions près du Mexique, ben, surtout peut-être à partir de novembre, si quelqu'un devient président des États-Unis.
On ne citera pas de nom pour respecter. Ensuite, pour finir cette première édition de podcast consacrée au NIF, tu vas nous parler de Mirutan, qui était en séance presse et que j'ai loupé parce que je suis une grosse flemmarde.
Oui, donc je l'ai vu ce matin en séance de presse, Mirutan, qui est donc un film de zombies indien, réalisé par... Une minute, je vais vérifier... Alors, Mirutan, réalisé par Shakti Soundar Rajan, c'est donc l'histoire d'un flic qui doit protéger sa sœur et un petit groupe de personnes lorsqu'il y a une épidémie qui transforme toute la population en zombies. On pense à plusieurs moments à un Shaun of the Dead indien, parce que c'est vraiment c'est plus drôle qu'effrayant. Mais c'est très très indien, il y a des interludes musicaux qui sont absolument jouissifs, il y a de l'action... assez décalé, je pense qu'ils ont fait exprès pour faire certains effets qui ont l'air très cheap, et je me suis amusé comme un fou du début à la fin, et rester jusqu'au tout début du générique de fin, parce qu'ils promettent déjà Mirutan 2, donc si vous avez aimé le premier, vous pouvez prendre rendez-vous pour une des prochaines éditions d'UNIF, j'imagine, pour voir la suite.
Voilà, tout à fait. Sur ce, on va se quitter, c'est déjà la fin de ce premier podcast consacré au NIF, qui ne pourrait pas exister, je le rappelle, sans le soutien du Patreon Radio Kawa. Donc si vous appréciez ce genre de petites émissions, je vous encourage à les donner au Patreon Radio Kawa. Et qui ne pourrait pas non plus exister sans clap.ch, qui nous prête gentiment Max pour la durée du festival. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et on se retrouve très vite. Bye bye.
Bye. Ultra violent.
La légende dit qu'il y a très longtemps, peut-être plus de 1000 ans, quatre chroniqueurs créèrent la société secrète de l'Agapar. On dit que dans leur infinie sagesse, ils offrirent au monde la bonne parole du jeu vidéo, leurs analyses, leurs coups de cœur, leurs coups de gueule et leurs plus beaux jeux de mots pourris. Mais des forces maléfiques les enfermèrent à jamais, grâce à un sort dont ils ne purent se libérer. Coincés depuis trop longtemps dans une grotte sombre et humide, frustrés par des siècles de combos ratés à Street Fighter, on raconte qu'ils sont parvenus à reprendre contact avec le monde extérieur grâce à la magie d'Internet. Aujourd'hui, la légende dit qu'une oreille attentive peut les entendre dans la Gapar, sur Radio Kawa.
On pourrait faire une pub pour Getting to Know You, mais là j'ai la flemme.
Ça peut être ça notre pub, non?
Ouais.
Getting to Know You sur Radio Kawa. Deux personnes, une conversation et zéro fil rouge.